tratan de boycotter.
Bonsoir à tous, bienvenue dans À votre avis et Kabadou pour vous accompagner dans cette discussion interactive et à la réalisation de cette émission, firme Max Kouyaweda. Cette semaine, le président Alassane Ouattara sera en visite d'État du 9 au 12 septembre dans la région du Moroni. Vendredi dernier, il était reçu par le président français Emmanuel Macron à l'Élysée avant de s'envoler dimanche pour Niamey pour une rencontre des chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui se sont réunis lundi. Au menu de la rencontre, la situation politique et sécuritaire de la région. Le dossier malien a évidemment été évoqué car le pays est en partie sous embargo. La CDAO demande au CNSP malien le rétablissement rapide d'un pouvoir civil. Vous avez été nombreux à réagir face à cette demande. Lassani Diarra, Bamako, Mali, les Maliens ont déjà pris leur destin en main. Modifier la constitution est un coup d'État contre son peuple qui ne se soucie point de la CDAO. Ouadréogo, Valentin, à quoi sert cette CDAO? Des clowns qui travaillent pour leur propre intérêt et pour celui de la France. Bondongue, N'Djamena, au Tchad, de quels civils parle-t-on? Les militaires ne sont-ils pas des civils? Sont-ils incapables de gérer? Allez dire au président de la CDAO que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Ali Souleymane Maïga à Bamako, au Mali, tant que les présidents de la CDAO sont à la course d'un troisième mandat, nous n'avons aucun ordre à recevoir d'elle. On va tout de suite prendre l'avis d'une auditrice à Bamako. Il s'agit de Mariam Koulibaly.
Bonjour à tous les auditeurs. Donc, par rapport à l'actualité du Mali et à la demande de la CDAO ou à la junte pour donner le nom de quelqu'un pour la présidence du Mali, moi je pense que c'est une bonne chose que la junte soit assistée par la CDAO. Parce que ce sont des jeunes, ils ont eu la volonté de parachever ce que les civils ont commencé, mais ils n'ont pas une grande expérience pour diriger le Mali. Donc si la CDAO les assiste, c'est une bonne chose. Moi, je souhaite que la junte se méfie de certaines personnes. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de courir derrière eux. C'est juste pour avoir des places, des postes. Et qu'il y a. Il faut que le Mali dépasse les stades des vieux de 70 ans, 60 ans. Des gens qui ne sont pas prêts à laisser le pouvoir. Il y a des gens, depuis que nous on est petits, ils sont à la présidence, ils sont dans les ministères, ils sont les chefs de service, ils sont les chefs de division, ils sont les directeurs de service et ils ne sont jamais satisfaits. Ils veulent tout avoir. Donc, moi je pense que les jeunes dirigent le Mali, c'est une bonne chose, mais qu'ils soient assistés. Soit assisté et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Merci.
Sur la toile, vous étiez donc très nombreux à donner votre avis. Louis Moutenga, qui s'en gagne en RDC, il est temps que la CDAO change de stratégie dans la résolution des conflits politiques. La CDAO doit désormais chercher à prévenir les conflits politiques au lieu d'attendre que les conflits naissent et commencer par jouer aux médecins après la mort. Ainsi, la CDAO doit très tôt mettre en garde les présidents qui font voter sciemment des lois scélérates, des lois drones pour exclure les opposants des différentes élections. Exemple, le cas du Bénin qui a organisé deux différentes élections sans les partis de l'opposition et bientôt la présidentielle va se dérouler. C'est maintenant que la CDAO devrait commencer par tirer la sonnette d'alarme. Alphonse Boaké à Kinshasa en République démocratique du Congo, la CDAO n'a-t-elle pas compétence pour intervenir en Côte d'Ivoire, en Guinée pour prévenir les crises? C'est quand les peuples décident de prendre leur destin en main qu'elle s'invite dans le débat. Cette organisation n'a pas la confiance des populations dans son espace. On va justement se rendre en Côte d'Ivoire avec une auditrice à Abidjan qui souhaite garder l'anonymat et nous donner son avis sur la situation politique dans le pays.
Moi, je dirais que de tout ce qu'on voit et de tout ce qu'on sait, rien n'augure des élections vraiment apaisées en Côte d'Ivoire. Et c'est vraiment la peur au ventre qu'on va vers ces jours d'octobre. Et moi, je pense aussi qu'au sujet de la troisième candidature, le troisième mandat de Ouattara, qu'il n'est vraiment pas nécessaire et qu'on pouvait s'en passer. Pour lui-même, il avait fait une belle passe de démocratie, il avait fait une belle démonstration et on en était tous fiers. On ne l'espérait pas, mais il avait quand même dit, il avait fait à la face du monde et on croyait vraiment qu'il allait l'appliquer. Jusqu'au dernier moment, jusqu'à maintenant où les choses ont changé et qu'on voit ce qu'on voit là. On pense que la Côte d'Ivoire n'en avait pas besoin, on n'a pas besoin de crise politique, de crise de société maintenant à l'heure actuelle là, qu'on n'en a pas besoin. On était bien parti, enfin on croyait qu'on partait en France pour un progrès. Et malheureusement, s'il faut revenir encore, retomber encore dans les mêmes crises, dans les mêmes choses, dans les mêmes horreurs qu'on a vécues en 2010, ça serait bien dommage pour la Côte d'Ivoire, pour les Ivoiriens, même pour ceux pour qui, ou bien pour ceux qui créent souvent ces désastres.
De son salon de Château Rouge, Adjani, originaire du Congo-Brazzaville, souhaite donner son opinion concernant la situation en Côte d'Ivoire.
Oh, plutôt pessimiste, hein. Moi j'aurais préféré que, comme il a annoncé le 5 mars qu'il devrait partir, j'aurais préféré qu'il respecte sa parole par honnêteté intellectuelle. Mais bon, qu'il cherche encore un troisième mandat, je pense pour moi que le troisième mandat c'est un mandat de trop. Il risque de se passer beaucoup de choses négatives. Et là, sur ce point, je suis très pessimiste.
Qu'est-ce qu'il aurait fallu, selon vous, pour que les choses soient apaisées? Parce qu'on a quand même, dans les rangs des différents grands partis, les mêmes qui étaient là en 2010, quand il y a eu des problèmes. Est-ce que vous auriez voulu qu'il y ait un renouvellement de la classe politique, comme cela avait été annoncé et par lui et par d'autres? Ou est-ce que vous avez en tête d'autres solutions?
Non, parce que c'est un moment difficile pour la Côte d'Ivoire. En fait, c'est un tournant. La Côte d'Ivoire aurait préféré se libérer de tous ces vieux, je vais dire. Hein. Le vieux Gbagbo, le vieux, comment on l'appelle, l'ancien président, M. Bédié, et puis M. Ouattara. Il a fait une très belle annonce quand je l'ai entendu le 5 mars, transmettre le témoin à la nouvelle génération. J'ai dit bravo. Et qu'il change d'avis, franchement, ça m'a fait très mal. Bon, enfin, c'est la politique qui est faite comme ça en Afrique, c'est pas étonnant. Déjà à côté, il y a la Guinée qu'on a pris aussi, qui est dans la danse. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est à la jeunesse africaine de travailler dessus. Et puis, c'est aussi une insulte intellectuelle parce que quand même, au RHDP, il y a bien des gens compétents qui pouvaient prendre la relève. Au lieu de faire confiance à la jeunesse, il préfère se relancer pour un troisième mandat. Je trouve, pour un grand monsieur comme lui, vu tout le travail qu'il a fait, j'aurais préféré qu'il saute par la grande porte. Voilà. Mais bon, nous sommes que des hommes. Je trouve qu'il rate là un moment d'élégance quoi, politique.
Merci. Merci beaucoup.
Non, c'est bon.
Écoutons Ismaël.
Moi, le fait qu'il se représente, ça ne me convient pas vraiment. Je ne sais pas qu'il a fait du mauvais travail, mais bon. En fait, là, il a mis un peu sa parole en doute. Il a d'abord dit qu'il ne comptait pas se représenter et qu'il laissait place à la jeunesse. C'est ce que j'avais pu comprendre. Et ensuite, il est revenu sur ses paroles avec des arguments qui ne sont pas trop valables pour moi, et avec pas mal d'histoires aussi. Voilà, moi, après, l'avis que j'ai, ce n'est pas forcément un avis propre à la Côte d'Ivoire, mais tout d'abord, c'est un avis propre à l'Afrique. À un moment donné, il faut savoir laisser sa place. Voilà, faut laisser d'autres personnes faire avancer les choses. Bah après, si ce n'est pas son parti, ça sera peut-être le parti de quelqu'un d'autre. Le bonheur viendra de quelqu'un d'autre, on ne peut pas savoir. Après, c'est pour ça qu'il y a plusieurs partis. Bah après, bon, après, en Côte d'Ivoire, on connaît hein, toujours quand ça parle de politique ou de présidence, que ce soit dans le sport ou par rapport à l'État, bah, y a toujours des histoires. Hein. Ça ne change jamais, ça. Et voilà, bah, voilà, moi, je trouve pas ça normal, mais après, bon, de là où je suis, je peux rien y faire. Hein.
Merci Ismaël. Nous restons en région parisienne avec Ismaël Wonder. Vous venez d'entendre l'avis de votre homonyme. Est-ce que vous, de votre côté, vous êtes d'accord avec un mandat supplémentaire du président sortant Alassane Ouattara?
Bon, aujourd'hui, je pense que c'est pas facile parce qu'il a fini son mandat. Mais le problème est que, à part Alassane, moi personnellement, je vois pas qui va diriger la Côte d'Ivoire. Parce que c'était le cas par rapport à Gbagbo. On disait que ouais, c'était lui le sauveur. Quand il est arrivé, on a vu ce qui s'est passé après. Pendant la guerre civile entre des différentes ethnies. Personnellement, je ne veux pas qu'un président fasse son troisième mandat. Mais s'il n'y a pas solution, aujourd'hui, je vois, quand Gbagbo était au pouvoir, je suis allé plusieurs fois en Côte d'Ivoire. J'ai vu comment la population vivait, tu vois. Bon, quand je suis retourné, quand Alassane était au pouvoir, je vois vraiment, c'est mieux, je ne dirais pas, c'est vraiment total bien. Mais avec Alassane, il y a la sécurité, les gens circulent normalement. Même le pays est en train de développer, il y a eu pas mal de travaux. Donc moi, personnellement, quand on dit premier mandat, deuxième mandat, tout ça, c'est la France qui a mis ça en place. Sinon, en Afrique, un président pouvait rester pendant 15 ans, 10 ans. Mais s'il reste et qu'il fait vraiment l'affaire de la population, pour moi, il n'a qu'à se représenter, il serait d'accord. Parce qu'à part Alassane, celui qui va venir, il va essayer maintenant de, comme on a rempli sa poche avant de penser au peuple. Donc la Côte d'Ivoire va retomber encore dans les chaos.
Merci Ismaël. À votre avis sur VOA Afrique. Autre continent, autre capitale, nous avons en ligne un visiteur ivoirien de Montréal au Canada.
Bonjour, aujourd'hui j'aimerais apporter mon point de vue sur la situation politique en Côte d'Ivoire. Moi je ne suis pas surpris, hein. J'avais vu le chemin venir parce que je disais à des amis au mois de mars dernier que ce renoncement au troisième mandat, ce serait quelque chose de courte durée en fait. Parce que moi, des proches que je connais, tant très liés à Amadou Gon Coulibaly, je disais, attention, ce monsieur-là, j'ai des retours de son état de santé. Monsieur Alassane Ouattara va utiliser de cela pour se faire un troisième mandat et je parie avec vous. Et voilà, le 6 août dernier, avec, dans un discours partisan, moi je dirais pas que c'était un discours à la nation parce que c'était un discours partisan bien organisé. Donc moi, ça ne m'a pas surpris. Alors concernant le fait d'être les prochaines élections, moi je peux vous dire que je suis pessimiste. Pessimiste dans le sens où, premièrement, la constitution de notre pays a été bafouée. Bafouée dans le sens du terme parce que c'est une injure aux institutions, là, cette candidature du président Alassane Ouattara. La constitution de la Troisième République ne vient pas abolir. Elle vient certes abolir, mais alors qu'on ne peut pas faire plus de deux mandats, c'est comme si on venait nous insulter en fait. On venait insulter le peuple ivoirien, on venait se foutre du peuple ivoirien et on venait s'imposer en maréchal. Chose que le monsieur Alassane Ouattara a toujours été. Aussi, concernant les élections prochaines aussi, moi, je prends mon cas aujourd'hui, je suis à Montréal au Canada. Tout le monde le sait, il y a eu un incident avec la liste électorale ici. Parce que s'ils avaient envie vraiment de laisser tout le monde s'exprimer, il n'y aurait pas eu cet incident. Alors, on nous fait croire que, et ça je sais que c'est une foutaise envers nous les électeurs, on nous fait croire que la liste électorale a été envoyée par DHL à Abidjan et que DHL a perdu le colis. Ils ne peuvent pas revenir faire le processus d'enrôlement. Voilà, nous sommes privés de nos droits en tant qu'électeurs. Et on me dit que, voilà, aujourd'hui, non, monsieur, vous ne pouvez pas voter à cause d'un incident de DHL. Donc, je ne suis pas optimiste concernant ce qui se passe l'avenir. Quand on voit les manifestations des civils qui sont réprimandées, les manifestations de l'opposition qui sont réprimandées, voilà, ça démontre que, voilà, on est dans une crise préélectorale. Monsieur Alassane Ouattara et son parti ne sont pas prêts à avoir des élections justes et transparentes. Ils veulent se maintenir au pouvoir par des moyens de pression, en fait. Et le RHDP et sa gang n'ont jamais été des adeptes du respect des constitutions.
Merci. En ligne, nous avons Cheikh Bamba, délégué régional du RHDP pour les états de DMV, qui veut dire District Columbia, Maryland et Virginie. Avant que je vous laisse réagir, je n'avais pas connaissance du cas canadien évoqué par le précédent auditeur.
En revanche, en France, de nombreux citoyens ivoiriens ont alerté via les réseaux sociaux de leur incapacité à pouvoir s'enrôler avec des bureaux fermés pendant des horaires d'ouverture. Avez-vous rencontré ce type de problème à Washington ?
J'aimerais partager la vérité aux auditeurs sur le processus électoral en Côte d'Ivoire. Concernant l'incident canadien, je suis triste qu'on accuse le gouvernement et non la CEI pour commencer. Il faut le dire, lorsqu'il y a partage de pouvoir, il faut pouvoir imputer la faute à l'institution de droit. C'est un problème qui arrive en cette situation pandémique car l'approvisionnement des marchandises est en changement constant. Et donc cela peut arriver, il peut y avoir une perte ou un dégât et tout. Pendant l'approvisionnement. Donc, rien n'est à exclure ici. Finalement, l'opposition en Côte d'Ivoire se spécialise dans la bêtise à travers les fake news qui sont devenues leur stratégie de campagne et leur programme par ricochet en ne se souciant pas du bien-être des Ivoiriens car ils savent que nous sommes en année électorale et ils ont intérêt à jouer sur les émotions. Et voyez-vous, ils ramènent le sujet identitaire et ensuite refuse la candidature du président Alassane Ouattara avant même que l'institution habilitée qui est le Conseil constitutionnel ne se prononce sur le sujet. Le RHD n'a pas été victime à Washington d'ici d'un gros mensonge du PDCI. Ce dernier a employé le conditionnel si il était avéré en accusant le RHDP d'enrôler des étrangers à travers l'établissement des cadres consulaires. Mais il y a beaucoup d'actions de sabotage en cours par l'opposition juste pour éviter ces élections qu'elle n'a pas du tout préparées car elle a passé son temps à boycotter au grand désarroi de cette belle population ivoirienne qui a besoin de paix et de développement autant qu'humain que social. Toutes les élections en Côte d'Ivoire sont sujets à attention juste parce que les acteurs politiques jouent sur l'émotion des Ivoiriens. Ils ne veulent pas dépasser leur petite personne pour le grand intérêt en fait de la nation ivoirienne. Et c'est cela le plus gros problème.
Merci, Cheikh. Nous avons en ligne un observateur de longue date sur la situation ivoirienne, André-Julien Bem, essayagiste camerounais, critique littéraire, chercheur à l'École des hautes études en sciences sociales de Paris, a écrit plusieurs ouvrages, dont l'un intitulé « Laurent Gbagbo, l'intellectuel et le politique » paru aux éditions L'Harmattan.
Question d'un troisième mandat du président en exercice en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. A ceci de particulier que c'est d'abord une question technique qui concerne normalement d'abord les juristes. Pour ce qui me concerne personnellement, je ne m'estime pas suffisamment outillé pour apporter une réponse qui puisse faire autorité sur le plan de la science du droit. En revanche, je vais relever quelque chose qui ne frappe pas de nombreux observateurs. Nous sommes à quelques semaines de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire qui se tient le 31 octobre prochain et on ne parle que de la légalité constitutionnelle du troisième mandat envisagé par Alassane Ouattara et de sa candidature à l'élection présidentielle. Des conditions de possibilité et de légalité de sa candidature à l'élection présidentielle. Ça veut dire que cette candidature, qui est estimée par certains comme une candidature de trop, est en train de vicier le débat politique. Parce qu'en réalité, on devrait parler de la Côte d'Ivoire d'après le 31 octobre 2020. On devrait être en train de débattre projet contre projet. Ce qu'on évoque, notamment la disparition soudaine du dauphin qui devait être le premier ministre Gon Coulibaly. J'estime qu'on est là dans la cuisine interne du RHDP. Ça n'a rien à voir avec la constitution de Côte d'Ivoire. Il s'agit d'un débat politicien qui ne concerne qu'une formation politique. La question du troisième mandat pose en réalité celle du respect de la constitution, la loi fondamentale, dont le candidat Ouattara est censé être le garant en tant que président de la République en exercice. Et bien plus, ce débat a lieu dans un contexte global, qui est celui de la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Et j'ai souvent eu coutume de dire qu'il n'y a jamais eu réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Et c'est dans l'intérêt de tous. Or, on se rend compte que, dans le contexte actuel, on a les prolégomènes, excusez-moi,
quasiment d'un embrasement. Les positions sont tellement tranchées que on se demande très bien dans quel contexte on ira aux élections en Côte d'Ivoire. Contrairement en 2010, personne n'avait été exclu de la course. C'est d'ailleurs la raison d'être des accords de Pretoria, où il a fallu modifier par décret présidentiel un article de la Constitution ivoirienne pour rendre possible la candidature d'Alassane Ouattara. Et je pense donc que, pour m'arrêter là, au nom de la paix nationale, au nom de la réconciliation, rien n'interdit que l'on reporte cette élection présidentielle. Ouattara a été un grand bâtisseur durant ses 10 années de mandat. Mais vous savez, comme dit l'UNESCO, c'est dans l'esprit des hommes que naissent les guerres et c'est également dans leur esprit que naissent la paix.
Merci André-Julien Bem. En ligne, un auditeur ivoirien qui souhaite intervenir.
Bonjour, je m'appelle Pavel et je viens donner mon avis concernant la situation qui prévaut en Côte d'Ivoire, notamment la candidature de M. Ouattara aux prochaines élections présidentielles. Concernant la candidature de M. Ouattara, n'étant pas constitutionnaliste, je ne vais pas m'attarder sur le caractère légal ou illégal de sa candidature. Bon, ce qui m'intéresse ici, c'est le caractère éthique de sa démarche. M. Ouattara, en mars 2020, avait étonné tout le monde en décidant de ne pas se présenter aux prochaines élections et en désignant M. Bon Koulibaly comme son successeur. Il est clair que le décès de M. Bon Koulibaly est venu chambouler tous les plans de M. Ouattara, mais selon moi, ceci n'explique pas cela. M. Ouattara est entouré de cadres extrêmement compétents, donc il avait la possibilité de pouvoir désigner une autre personne. Et s'il n'avait pas confiance en cette personne-là, il est possible pour lui de pouvoir rester auprès de cette personne, de coacher cette personne, jusqu'à ce qu'elle soit, façonnée à son image, si c'est ce qu'il voulait. Aussi concernant la place de l'opposition dans cette démarche-là, je pense qu'elle est aussi tombée dans le jeu de M. Ouattara. Parce que jusqu'à présent, elle ne fait que parler de la candidature de M. Ouattara, des irrégularités sur la liste électorale, sans toutefois proposer de programme concret pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Ben, je retire de cette liste-là M. Mamadou Koulibaly, qui est, lui, depuis qu'il est dans la politique, il a toujours été droit, concret et constant dans sa démarche. Mais actuellement, l'opposition qui, je dirais, le PDCI, le UDPCI, le FPI et tout, sont dans une démarche où ils ne proposent pas quelque chose de nouveau aux Ivoiriens et ils ne participent pas vraiment, ils ne montrent pas qu'ils ont la possibilité de pouvoir être une alternative à M. Ouattara aux prochaines élections présidentielles, mis à part M. Mamadou Koulibaly. Et aussi, concernant les prochaines élections présidentielles, vu la situation qui a prévalu après l'annonce de M. Ouattara de se présenter aux prochaines élections, nous avons tous vu qu'il y a eu des manifestations, il y a eu même une crise dans certaines villes, il y a eu un affrontement entre communautés. Ça vient de montrer vraiment très clairement que la réconciliation nationale n'est vraiment pas encore atteinte en Côte d'Ivoire. Il y a toujours des ressentiments au fond de chacun. Et sur ce point-là, voyant tout cela, je suis très sceptique concernant les prochaines élections présidentielles. Je me dis qu'il risque d'avoir une certaine crise si le RHDP et l'opposition ne se mettent pas dans une démarche de réconciliation et d'apaisement des mœurs, d'abord d'apaisement de la population dans leur démarche, dans leur sortie médiatique et tout. Et donc, selon moi, si tout ceci n'est pas fait, il risque d'avoir une certaine crise qui risque d'arriver par rapport aux prochaines élections présidentielles. Donc, c'était là ma contribution par rapport à tout cela. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et bonne soirée.
Merci Pavel, vous étiez à Montréal, au Canada. C'est avec vous que nous allons refermer cette émission. Un grand merci à Firmin Max Koyaweda pour la réalisation de cette émission. Un grand merci à vous pour votre écoute. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur notre site www.voaafrique. C'était Etia Badou avec vous et je vous souhaite une excellente suite de programme à l'écoute de VOA.